Bonjour et bienvenue à tous dans cette cosmopolitaine que je dédie à l'héroïsme récompensé, j'espère, du peuple égyptien.
Cosmopolite. Cosmopolitaine.
Je m'appelle Francis Ford Coppola. Daniel Mayer.
Kathy Rosenthal.
Patrick Chamoiseau.
Chirine Dreves.
Je suis l'invité de Cosmopolitaine.
Paula Jacques.
De l'art de traduire, comment s'y prend un traducteur? Que doit-il choisir de sacrifier pour sauver l'essentiel d'un poème de Ibn Gabirol, par exemple, ou d'un roman de Samuel Agnon? Traduire est un film Babel, un film qui clôt la passionnante trilogie que l'israélienne Nourit Aviv a consacrée à la langue hébraïque. Mais c'est aussi de l'aventure de toutes les langues dont témoignent les 9 traducteurs interrogés dans ce beau film. Traduire est déjà sur vos écrans et Nourit Aviv, la réalisatrice ainsi que la traductrice Rosie Pinas Delpuech seront les invités de la seconde partie de Cosmopolitaine. Ahora Amigos, place à un grand, un très grand écrivain cubain, Leonardo Padura, pour son nouveau roman El hombre que amaba a los perros, entendez, l'homme qui aimait les chiens, un type dans mon genre, en somme, moi aussi, j'idolâtre la race canine.
Cosmopolite, cosmopolitaine.
Bonjour Leonardo Padura, j'ai adoré votre livre,
bonjour.
L'homme qui aimait les chiens, qui vient de paraître chez Anne-Marie Métayer. Alors je sais très peu de choses sur vous, je sais que vous êtes un grand auteur de romans policiers, très connu à Cuba, que vous êtes né à La Havane en 1955, mais j'aurais voulu savoir dans quel genre de famille vous êtes né et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain.
Yo soy escritor, creo que por uno de esos azares de la naturaleza.
Je suis écrivain par un de ces hasards de la nature.
O por lo que el gran escritor José Lezama Lima.
Ou parce que le grand écrivain Lezama Lima a appelé le hasard.
Concurrente.
Le hasard occasionnel.
Más o menos, más o menos.
Plus ou moins.
Porque yo toda mi adolescencia.
J'ai passé toute mon adolescence et une partie de ma jeunesse à ne jouer que au baseball. Et je voulais être joueur de baseball.
Mi familia es una familia cubana absolutamente normal. Nadie en la generación.
Ma famille est une famille cubaine absolument normale. Personne dans ma famille n'avait été étudiant ou n'avait eu de diplôme universitaire. Je voulais jouer au baseball, mais je n'avais pas les conditions physiques nécessaires. Alors j'ai pensé à moi être journaliste spécialiste du baseball. Et au moment où j'ai étudié, où je suis rentré à l'université dans les premières années, j'ai demandé à rentrer dans le journalisme. Et finalement, j'ai étudié la philologie hispanique. Et j'ai tellement lu que j'ai commencé à sentir le désir d'écrire. Et je crois que le fait que je ne pouvais pas jouer au baseball m'a fait apprendre l'écriture comme une forme de compétition.
Leonardo Padura, je suis frappée par deux éléments de votre parcours qui m'ont l'air assez révélateurs de la société cubaine de Castro. L'une, c'est que vous accédez à l'université parce que cette société-là permet aux enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'auraient pas accès d'y aller. Deux, vous voulez être journaliste dans un pays où c'est très difficile d'être journaliste, parce que j'imagine que la censure est terrible, et pourtant il y a énormément de journalistes. C'est ces deux éléments-là que je trouve très intéressants.
Haber tratado de ser periodista en Cuba en los años 70.
Dans les années 70, rêver d'être journaliste, c'était un rêve possible. À cette époque, peu de gens se posaient le problème de la censure. Il y avait à l'époque une espèce d'homogénéité à l'intérieur de la pensée cubaine. Déjà, il y avait eu des effets de censure très graves, et les gens ne pensaient pas à violer cette censure. Je crois que cette pensée a commencé à exister dans les années 80, et comme je n'ai jamais cessé de faire du journalisme depuis les 80 jusqu'à maintenant, j'ai écrit sur beaucoup d'aspects de la réalité cubaine et j'ai été très très peu censurée.
Bonjour Marie-Madeleine Rigopoulos.
Bonjour Paula.
L'homme qui aimait les chiens qui vient de paraître chez Anne-Marie Métayer, c'est près de 700 pages. C'est vraiment un très grand, un très magnifique roman. très historique et très romanesque en même temps.
Je dirais même plus, c'est un roman magistral que nous avons là, Paula. Un roman d'une valeur inestimable tant sur le plan littéraire qu'historique, comme vous le dites. Leonardo Padura part d'un fait historique avéré, un des assassinats politiques les plus célèbres du XXe siècle, celui de Léon Trotsky, tué à Mexico en 1940, quand même d'un coup de piolet dans la tête. Alors, Padura, eh bien, il va remonter le fil du temps pour raconter l'exil de celui qu'on appelait aussi Lev Davidovich Bronstein, alias Trotsky, héros de la révolution russe, ami de Lénine, qui subit un exil imposé par le redoutable Staline, peu enclin, comme on le sait, à partager le pouvoir. Trotsky, on le découvre au début du livre, d'abord isolé au Kazakhstan, et puis il va être expulsé en Turquie, où il craint pour sa vie, puis en France, en Norvège, pour enfin terminer son long périple de solitude aussi et d'angoisse à Mexico, où nous le savons déjà, il a rendez-vous avec la mort. Et puis cette mort, eh bien, elle porte un nom. Et le nom, c'est Ramón Mercader, un jeune Espagnol engagé dans la guerre civile pour lutter contre le franquisme. Ça aussi, nous le savons, les livres d'histoire le disent. Ce qu'on sait moins, c'est que Ramón a été recruté par les communistes, entraîné comme machine à tuer dans les camps d'entraînement soviétiques, dans le seul but d'assassiner Trotsky. Ramón, lui aussi, va perdre beaucoup dans cette histoire, parce que lui aussi, c'est un jeune homme avec beaucoup d'idéaux. On aurait pu croire qu'il aurait même pu avancer dans le sillon de Trotsky. Il va perdre son identité dans cette histoire, il va embrasser la cause comme une religion, avec beaucoup de fanatisme, il va renoncer à sa vie au nom d'un idéal, et il va en payer le prix fort, puisque ça va quand même lui coûter 20 ans dans une prison mexicaine. Mais ce que Leonardo Padura réussit, c'est nous emmener dans les méandres d'une grande histoire faite d'une multitude de petites histoires parallèles, politiques bien sûr, mais aussi humaines, voire amoureuses, parce que la grande histoire, ce n'est finalement, vous le savez, Paula, que l'accumulation de tous ces désirs, ambitions, frustrations, regrets, et puis aussi de naissance et de mort. Et cette histoire, elle est racontée par Ivan, un Cubain, un écrivain refoulé, responsable d'un cabinet vétérinaire, Ivan, qui va rencontrer sur une plage de la Havane un homme mystérieux qui promène deux lévriers russes, deux barzoï, des chats assez rares, voilà, très impressionnant. Et cet homme, eh bien, il va lui faire des confidences, car il vient de loin, et il semble avoir bien connu Ramón Mercader. Alors un Cubain, bah, il en fallait un forcément dans cette histoire, puisque l'on sait que notre auteur a toujours eu à cœur de montrer les revers de la Révolution, de dénoncer la manipulation idéologique. Il en connaît quelque chose. Leonardo Padura est aussi un auteur de polar à la base. La structure, la tension sont bel et bien héritées du roman noir. Hein. Dans ce roman, on le lit comme si on lisait un polar. D'ailleurs, il dit lui-même, hein, le roman noir, c'est un genre qui nous connecte directement avec le côté obscur de la réalité. Et ça, il le fait vraiment bien. On sait que Trotsky va mourir, c'est un fait irréfutable. Mais on a beau le savoir, le suspense reste entier. Et c'est ça qui est génial dans ce livre. C'est que ce n'est plus l'aboutissement de l'intrigue qui compte, qui nous intéresse, mais les éléments qui vont inéluctablement mener les personnages vers leur destin. Alors dans ce grand roman, eh bien on assiste à la longue agonie du communisme. L'assassinat non pas d'un homme, mais d'un idéal. C'est ça qui est la vraie question de cette histoire. L'auteur nous dit aussi que la trahison qui vient de notre propre camp est non seulement la plus douloureuse, mais souvent la plus dangereuse pour la liberté et pour la démocratie.
Merci Marie-Madeleine Rigopoulos. Tous ces grands thèmes importants de l'histoire traités avec un art du romanesque qui nous tient absolument en haleine.
Cosmopolitaine, Jipisakmae, Preta, Polropi Poplo.
Leonardo Padura, dans votre roman « L'homme qui aimait les chiens », en fait, il y a trois hommes qui aiment les chiens, et il y a trois histoires dans ce roman. Les trois amoureux des chiens, l'un, c'est Ramón Mercader, l'assassin de Trotsky, le deuxième, c'est Trotsky lui-même, et le troisième, c'est l'auteur, Ivan, qui va raconter cette histoire. Et c'est très intéressant, cette histoire de chiens, parce que tout s'articule autour de la monstruosité humaine, et la compassion. Ramón Mercader, que va rencontrer Ivan, il ne sait pas encore qu'il a commis ce crime atroce, mais il se rend compte que Ramón Mercader a un chien malade et que ça le rend lui fou de détresse, qu'il ne sait pas comment, il faut tuer son chien, il ne sait pas comment le tuer. Il a réussi à tuer Trotsky à peu près sans problème, mais il ne sait pas comment tuer son chien.
J'ai utilisé les perros comme un élément humanisateur.
J'ai utilisé les chiens comme un élément humanisant de ces personnages, surtout pour Trotsky et Mercader. Parce que le personnage de Ivan, qui est un personnage contemporain et cubain, pouvait parfaitement être un homme qui aimait les chiens, mais Trotsky et Mercader ont des histoires beaucoup plus agitées. J'ai utilisé cette idée de l'amour pour les chiens comme une façon de montrer l'humanité des personnages. Je crois que le moment auquel vous faites allusion, vous parlez du moment où Mercader doit décider s'il va achever ou pas un de ses chiens, montre que l'assassin le plus froid peut avoir des doutes. Et ces doutes, c'est à cause de cet amour qu'il ressent pour l'animal. Et pourtant, cet homme, 30 ans avant, avait tué de sang-froid un des grands personnages de l'histoire. Je crois que personne n'est jamais totalement mauvais et jamais totalement bon. Et évidemment, il y a des gens qui sont pires que d'autres et d'autres qui sont meilleurs que d'autres.
Non, mais ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, Leonardo Padura, c'est le personnage de Mercader, parce qu'on sait des choses sur Trotsky, mais on sait très peu de choses sur son assassin. On a plutôt l'idée d'un salaud, d'un voyou qui exécute une commande. Et or, pas du tout. Mercader est une espèce de pur qui tue par conviction. Et ça, vous nous le montrez bien dans ce livre.
Mercader, creo que cumple una función porque...
Mercader accomplit une mission parce qu'il pense qu'il accomplit un acte nécessaire. C'est un homme qui milite dans un parti, qui doit obéir aux ordres de ce parti. À l'époque où se produit l'assassinat de Trotsky, les options qui se présentaient pour les militants étaient très restreintes. Pas uniquement pour les militants communistes, mais pour tous les gens qui avaient une pensée de gauche. Celui qui n'obéissait pas aux directives de Moscou restait à l'extérieur de la révolution. Et il pouvait être accusé de ce qui avait le plus terrible, c'est-à-dire d'être trotskiste. Trotsky était le personnage diabolique du communisme international. Et je crois que si on se place près de Ramon Mercader, on peut comprendre pourquoi il a commis cet acte et pourquoi il a accepté de commettre cet acte. Parce que l'obéissance était pour un communiste quelque chose de fondamental.
Il y a d'autres éléments aussi, Leonardo Padura. D'abord, il y a deux femmes dans la vie de Ramon Mercader qui sont absolument effroyables. C'est sa mère, Caridad. C'est la femme qu'il aime, Africa, qui sont toutes deux des fanatiques et qui le poussent à commettre ce crime. Parce que lui, il aurait presque des doutes. Donc déjà, les femmes, ce sont un peu des sorcières dans ce livre, d'une part. D'autre part, on va lui laver le cerveau à Moscou. On va le soumettre à un entraînement effroyable.
Si. Algunos críticos han dicho que en mis novelas, los hombres son los personajes fuertes.
Des critiques ont dit que dans mes romans, les personnages sont les hommes sont des personnages très forts. Et je pense que les deux personnages les plus vigoureux du livre, c'est Africa et Caridad, la mère de Ramon Mercader. La relation entre Ramon Mercader et Africa, c'est une relation que je construis de façon romanesque. Mais même si Africa de la Hera est un personnage réel, cette relation avec Ramon Mercader a été travaillée de façon romanesque.
Justement, on se pose des questions, Leonardo Padura, sur quel est le travail de l'imagination. Parce qu'on sent que vous avez fait un travail historique de recherche formidable. C'est pour ça qu'on est accroché à cette histoire. Et en même temps, il y a des remarques comme ça. On se dit, mais où est-ce qu'il a été chercher ça? Lorsque Mercader dit à je ne sais plus qui, « Oh, je ne veux pas aller à Paris, je déteste Paris, je déteste les Français. » Vous l'inventez ou c'est vrai?
Todo lo que ocurre en esta novela tiene una investigación histórica detrás.
Tout ce qui se passe dans ce livre est basé sur une recherche historique. Et même si Mercader n'a pas eu les pensées que j'exprime, il pensait comme pensaient les communistes espagnols de cette période. Parce qu'il pensait que la France les avait abandonnés à un moment de la guerre civile. Si Ramon Mercader ne l'a pas réellement dit, il aurait pu le dire.
Leonardo Padura, alors c'est peut-être parce que l'homme, l'assassin, l'homme qui a des parts d'ombre est toujours beaucoup plus intéressant que le héros. On s'attache beaucoup à Ramon Mercader, sous votre plume en tout cas. Et Trotsky, il est un peu plus rigide, il est un peu plus mécanique. Peut-être que vous avez été impressionné par lui, sauf au moment où il est au Mexique, dans cette forteresse. Et il devient l'ami de Diego Rivera et de Frida Kahlo. Et à ce moment-là, le vieux monsieur qu'il est, avec sa femme et ses fils, tombe dans une espèce de folie sensuelle pour Frida Kahlo. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de militants. Il n'y a qu'un homme rattrapé par la chair. Là, tout d'un coup, il devient humain, votre personnage.
El problema a la hora de construir el personaje de Trotsky era su enorme sentido de la historia.
Le problème, quand j'ai construit le personnage de Trotsky, c'était son immense pouvoir. Enfin, Trotsky savait qu'il appartenait à l'histoire et que tous ses actes avaient des conséquences historiques. C'était un homme qui vivait intensément la politique. Et j'ai dû chercher derrière cet être historique et politique des parties plus personnelles de sa vie. C'est pourquoi, dans ce roman, les épisodes de la mort de ses enfants sont si importants, parce que cela révèle l'humanité de Trotsky.
Y el episodio que mejor lo presenta es ese amor.
Et l'un des épisodes qui le révèle le plus, c'est cet épisode de l'amour mature mais un peu fané pour Frida Kahlo.
Frida, lo sabemos por su biografía, era realmente una ninfómana. Ella y Diego Rivera tenían una relación.
On sait vraiment par la biographie de Frida Kahlo qu'elle était nymphomane. Et avec Diego Rivera, elle avait une relation de couple assez étrange. Et Trotsky ne recherche pas cette relation, il tombe dans cette relation. Et il s'agit d'une femme qui avait un charme très spécial, pas tellement physique qu'intellectuel. On sait qu'elle avait une infirmité qui était venue d'un accident qu'elle avait eu quand elle était jeune. Vous savez qu'elle savait bien manier tous les sortilèges de la féminité. Et elle a rendu Trotsky fou pendant ces quelques semaines qu'a duré leur relation.
Nous étions deux. Nous étions doux. Nous étions double. Nous étions Dieu.
Beaucoup plus tard, j'avouerai à mon ami Danny que le jour où je lui avais rendu les livres sur Trotsky, j'avais été sur le point de vaincre mes craintes et de lui raconter l'histoire de mes rencontres avec l'homme qui aimait les chiens. Le fait d'être l'unique dépositaire d'un récit capable à lui seul de tarir la source de tant de rêves me poussait à évacuer l'horreur qu'on m'avait inoculée et qui me donnait une sorte de vertige mental, pire encore que ce dont souffrait Lopez. Cette trouble utilisation des idéaux, la manipulation et la dissimulation des vérités, le crime comme politique d'État, l'élaboration cynique d'un gigantesque mensonge, tout cela me remplissait d'indignation et m'inspirait de nouvelles craintes. À cette époque, ce qui en réalité m'intriguait le plus, c'était le destin final de Mercader, dont je savais juste, par l'article plié trouvé dans la biographie de Trotsky, qu'il avait fait de la prison à Mexico et qu'à sa sortie, il avait été reçu dans un Moscou plutôt hostile envers lui et ses actes, une ville où, selon Lopez, son ami était mort, confiné dans un anonymat qui incluait sa tombe. Comme je n'arrêtais pas de penser à l'homme qui aimait les chiens, je me demandais si je ne devrais pas tenter de savoir ce qu'avait pensé, éprouvé, cru Ramón Mercader au long de ses années de châtiment et d'enfermement, et plus tard, lorsqu'il était revenu dans un monde qui ne ressemblait plus, bien que ce fût le même, à celui qu'il avait quitté, plus de 20 ans auparavant, porté par sa foi et ses convictions, chargé d'une mission de mort. Je n'eus pas l'idée, je ne l'aurais que des années plus tard, de mettre noir sur blanc la confession que m'avait faite Lopez, et encore moins d'écrire un livre sur le crime de Mercader et sur l'histoire et les intérêts de ses démiurges. Peut-être parce que le récit demeurait incomplet et que bien des détails de la partie connue échappaient à ma compréhension, à ma capacité de les relier et de les situer dans un contexte historique, ou peut-être parce que j'ignorais si Lopez réapparaîtrait un jour ou l'autre et que, quelle que fût son identité, je lui avais promis de ne pas raconter et de ne pas écrire son récit. Ou alors, je n'y songeais pas parce qu'en réalité, j'avais tellement oublié que j'avais un jour voulu être écrivain que je ne pensais presque plus comme un écrivain. En tout cas, l'idée d'écrire cette histoire inachevée ne m'effleura pas, et si elle le fit, ce fut de façon trop timide. Vous allez tout de suite voir que je ne choisis pas cet adjectif au hasard. Quelques années plus tard, alors que je commençais à fouiller dans ma mémoire pour tenter de reconstituer les détails de ce que Lopez m'avait révélé, je sus que la véritable cause de ce long atermoiement, l'unique cause authentique, avait été la peur. Une peur qui me dépassait. L'homme qui aimait les chiens, page 363.
Je suis Leonardo Padura, l'invité de Cosmopolitain.
Leonardo Padura, au fond, votre livre installe une réflexion très belle et très mélancolique aussi sur les utopies. Les hommes rêvent d'être bons pour les autres hommes et à chaque fois ça se termine par des massacres. C'est-à-dire que plus l'utopie est belle et plus la chute est effroyable. Est-ce que vous pensez que si c'était Trotsky qui avait pris le pouvoir en Union soviétique et pas Staline, ça aurait été une autre page d'histoire plus douce, pas d'assassinat, pas de goulag?
Yo creo que cuando estamos frente a la historia, tenemos que atenernos a los hechos que ocurrieron.
Je crois qu'en face de l'histoire, on doit s'en tenir aux faits qui sont arrivés, qui se sont passés. Mais il est très séduisant de spéculer sur ce qui ne s'est pas passé. Je crois qu'on s'est tous posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé avec Trotsky et pas avec Staline. D'abord parce qu'on sait que ce qui s'est passé sous Staline a été épouvantable. Moi, en réfléchissant beaucoup autour de cette spéculation, je ne crois pas que la différence aurait été si importante entre les deux. Quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il décide d'y rester, il manipule les instruments du pouvoir toujours de la même manière. Ça, c'est une spéculation. Je pense que Trotsky aurait été différent de Staline d'un point de vue quantitatif, pas qualitatif.
Leonardo Padura, est-ce que vous avez rencontré, vous, Ramón Mercader, à Cuba, puisque vous nous expliquez, il va passer 20 ans en prison à Mexico après son crime, après avoir assassiné. Ensuite, il va aller en Union soviétique et puis il va arriver à Cuba. Sa mère était cubaine d'ailleurs. Et dans votre roman, c'est le narrateur, c'est Ivan, qui le rencontre sur la plage. Vous auriez pu le rencontrer vous aussi?
Possiblemente. Haya tenido la ocasión de habérmelo encontrado. Yo también
oui, iba j'aurais pu avoir l'occasion de le rencontrer. Oui, parce qu'à cette époque, à l'époque où Mercader promenait ses chiens sur la plage, moi j'allais y jouer au squash. Mais si j'avais vu sur la plage un homme qui promenait deux borzois, j'aurais plutôt fait attention aux chiens qu'à l'homme. Parce que c'était pour moi un homme totalement inconnu. À Cuba, on ne savait pas, même pas, qui avait été Trotsky.
Vous l'appeliez le renégat quand même, le traître.
Era el renegado, era el traidor. Y no había literatura sobre Trotsky en Cuba.
C'était le traître, le renégat, mais il n'y avait absolument aucun texte accessible sur Trotsky à Cuba.
Et por lo tanto, tampoco sabíamos quién era Ramón Mercader. Y estoy hablando, cuando hablo en plural, estoy hablando
donc, on ne savait pas du tout qui était Ramón Mercader. Et quand je parle au pluriel, je parle au nom de ma génération. À Cuba, il y avait eu un parti trotskiste qui a été désintégré en 63-64.
Une question alors très féminine, excusez-moi. À quoi il ressemblait? Parce que dans le film que Lozé consacre à Trotsky, l'assassinat de Trotsky, Ramón Mercader est joué par Alain Delon, qui est un homme superbe. Comment il est dans la réalité, Mercader? Il est beau, il est séduisant.
Yo creo que sí, que Ramón Mercader era un hombre muy seductor.
Je crois que oui, que Ramón Mercader était un homme très séduisant.
Hay un elemento visual en la
película. Il y a un élément visuel qui m'a montré ce que qui pouvait être Ramón Mercader. Je pense que si on a mis, on a donné le rôle de Mercader dans le film de Lozé à Alain Delon, ça veut dire que Mercader devait être quand même pas mal.
Y en la escena final de la película, en la que el personaje encarnado por Alain Delon está golpeado y con una venda.
Dans la scène finale où le personnage qu'incarne Alain Delon et a un bandeau sur la tête et il a été frappé, le metteur en scène fait un fondu enchaîné sur de Alain Delon sur une photo de Ramón Mercader et il se ressemble beaucoup. Je crois qu'il utilisait son physique comme élément de séduction. C'est un homme qui utilisait aussi d'autres charmes. Il y avait la conversation, la culture, il parlait plusieurs langues. Il vient d'une grande famille catalane dans les années 20, c'est-à-dire qu'il était très cultivé, il savait se comporter dans les milieux sociaux les plus élevés. Et ce sont tous ces éléments qui ont été utilisés au moment où on l'a transformé en Jacques Mornard, parce qu'il savait que la capacité de séduction était un élément très important de ce personnage.
Est-ce que vous aussi, Leonardo Padura, finalement vous éprouvez de la compassion pour l'assassin atroce, comme Ivan, le narrateur du livre ?
Yo creo que Iván, en las condiciones que llega al final de la historia,
je crois que Ivan, au point où il arrive à la fin du livre, est capable de sentir de la compassion pour n'importe quel être humain.
Et vous?
Yo no, yo estoy más cerca de el amigo de Iván, Daniel, que le dice que no se puede sentir compasión pour un hijo de puta como ese.
Moi, non. Moi, je suis plutôt dans la position de l'ami de Ivan, Daniel, qui dit qu'on ne peut pas avoir de compassion pour un salaud comme ça.
Est-ce que je peux vous dire quand même, Leonardo Padura, que ce hijo de puta, ce fils de pute, est vraiment le personnage le plus captivant et le plus fascinant de ce roman extraordinaire?
Si, es que a veces los personajes más terribles suelen ser los más fascinantes.
Mais oui, parce que les personnages les plus terribles sont en général les plus fascinants.
Merci infiniment, Leonardo Padura, pour ce roman impressionnant, exceptionnel, historique, politique aussi, hein, qui nous fait réfléchir sur le fonctionnement du monde et des hommes. C'est traduit de l'espagnol Cuba par René Solis et Elena Zayas. C'est paru aux éditions Métayer. Merci à vous, Anne-Marie Métayer, d'avoir traduit les propos de Leonardo Padura. Merci.
Merci beaucoup.
I gonna dance, ayo. Desire is what I wanna feel.
gonna dance, I'm gonna dance, I'm gonna dance, I'm gonna dance, I'm gonna dance, I wanna feel good. I'm gonna be, I wanna be.
Bonjour Norita Vive, bonjour Rosie Pinas Del Pia, je suis très très contente de vous accueillir toutes les deux pour ce film réellement passionnant. Traduire, que vous signez Norita Vive, c'est un film où vous interrogez 10 traducteurs sur ce phénomène mystérieux extraordinaire qui consiste à faire passer une œuvre d'une langue dans l'autre. Alors, vous, vous êtes traductrice, Rosie Pinas Del Pieche. Vous allez nous dire tout à l'heure comment vous avez travaillé avec Norita Vive. Norita, vous, vous êtes vraiment, d'abord, vous avez été opératrice, vous avez travaillé à caméra, vous êtes une cinéaste, et depuis quelque temps, vous êtes complètement passionnée par ces phénomènes de la langue, du passage de la langue dans la traduction, chez les auteurs qui doivent tout d'un coup se défaire de leur langue maternelle pour s'approprier l'hébreu. Qu'est-ce qui, dans votre expérience à vous, cinéaste, vous a amené à vous passionner sur cette question au point de lui consacrer 3 films? Parce que ça, traduire, c'est le 3e volet de ce travail.
Je ne savais pas quand j'ai fait les premiers que je vais faire un 3e. Donc j'ai commencé par « D'une langue à l'autre », qui est en fait des gens dont la langue maternelle n'est pas hébreu, qui écrivent en hébreu. Après, il y avait langue sacrée, langue parlée, qui était un peu le reste de ma préparation de premier, parce que je tournais beaucoup autour de l'hébreu, mais ce n'était pas le sujet de premier. Donc, le deuxième, c'est les tensions entre les strates différentes dans la langue elle-même. Et le troisième, traduire, c'est un peu l'envers de premier, parce que si dans le premier, on parle dans une langue, l'hébreu, des autres langues refoulées, oubliées, les rapports avec elles, là, c'est à l'envers. On parle dans 9 langues pour parler de une, l'hébreu, de laquelle on traduit.
Oui, mais j'aurais voulu savoir, Norita Vive, pourquoi vous, cinéaste, vous vous attelez à un travail qui passionne tout le monde, mais essentiellement les lecteurs et puis les écrivains. Est-ce le fait que vous, vous avez eu plusieurs langues maternelles, peut-être ?
Certainement.
Vous êtes né en Israël ?
Je suis né en Israël, mes parents m'ont parlé en allemand.
De parents allemands qui parlaient allemand ?
Et mon père berlinois, mais ma mère tchèque, de langue maternelle allemande. Donc on est déjà entre les langues. Mais je crois quand même, parce que vous dites cinéaste, chef opératrice, n'est-ce pas ? Bon, je fais l'image. Mais je crois que je me suis toujours vécue comme traductrice en faisant l'image. C'est-à-dire l'image pour le réalisateur. Il fallait traduire le scénario d'un réalisateur en image. Donc en fait, c'est une question de langage qui m'intéresse. Hein.
ماذا يرى الله خلف النافذة؟
ما هو إلهي مأذى الخلون؟
بيت يداه متونوت بعلام. ماذا ترى أمي؟
شتو فيديت مايا ماي؟
فاسيت ماني موتي.
ما رأى إيمي؟
Et vous, Rosie Pinas Del Pieche, est-ce que vous pensez que le film de Norita Vive, sa démarche, la passion aussi que ça suscite chez le spectateur, parce que c'est vraiment un film passionnant, a à voir avec le fait qu'il s'agit de l'hébreu, c'est-à-dire une langue qui a été fixée récemment, qui a dormi pendant des millénaires et qui doit ressurgir à l'heure moderne avec tous les problèmes que ça pose. Autrement dit, s'il s'agissait par exemple de l'espagnol ou de l'anglais, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette démarche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je dirais oui et non pour l'hébreu. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire ce que ça donnerait. Mais c'est-à-dire que l'hébreu est tellement une langue princeps. Une langue...
Qu'est-ce que ça veut dire, princeps ?
Une langue originelle, première, à partir de laquelle, dans notre civilisation occidentale, on a commencé à traduire la Bible.
Ah oui, d'accord.
Hein, d'accord ? C'est à partir de la Bible hébraïque qu'a commencé cette espèce de... comme l'invention de la roue, hein, l'invention du feu, l'invention de la roue. Et dans la langue, il y a cette chose tout à fait étonnante, que d'un coup, ce texte fondateur de notre civilisation occidentale commence à rouler. Et Norita commence son film, justement, par une citation, les 70, comment les 70 sages se sont réunis en Alexandrie à la demande de Ptolémée pour traduire de l'hébreu en grec, puis du grec en latin, et puis on sait, tout le monde sait aujourd'hui, que c'est vraiment le livre le plus traduit et le plus vendu et lu au monde, la Bible, appelée aussi Ancien Testament. Donc on part de ça, mais le phénomène est tout à fait général. Et ce qui est très très passionnant, bon d'abord comme traductrice ça m'émeut vraiment parce qu'on nous appelle des gens de l'ombre, et ces gens de l'ombre, très concrètement, très physiquement dans son film, nourrissent l'essor de l'ombre, c'est-à-dire que chacun se présente, surgit de l'obscurité dans sa manière de filmer et commence à parler dans une langue étrangère. C'est formidable. Et en même temps, elle a cette citation merveilleuse d'un poème de Yehuda Amichai qui dit « Que voit Dieu par la fenêtre ?» Phrase énigmatique, mystérieuse, d'abord Dieu.
Et quelle fenêtre ?
Et quelle fenêtre ? Et quel Dieu ? Est-il anthropomorphe ? Mais c'est une phrase de poète. Que voit Dieu par la fenêtre ? Et elle nous présente les 10 traducteurs à travers le monde, l'Espagne, la Californie, Boston,
Milan,
l'italienne à Milan, le catalan, un yiddishophone à Malakoff, moi-même à Paris. Et donc ça tourne et chaque personnage, parce que nous sommes des personnages de son film, est vu devant son lieu de travail et par la fenêtre qui lui est proche.
La Bible m'intéressait desde muy joven.
Wanaka Arabi, il est jamais un sacrafi.
Non, arrivate l'ebraico per caso.
Eigentlich wollte ich nicht Übersetzerin werden. Aber ich bin mit 18 nach Israel gegangen als Freiwillige.
Vedo che c'è un corso di
ebraico.
Alors moi j'aurais envie de dire qu'entend Dieu par la fenêtre, puisqu'il s'agit de mots. Et la singularité aussi de cette démarche et de cette langue, c'est que n'oubliez pas, à l'origine, il y a le verbe, et à l'origine aussi, il devait y avoir une seule langue qui, au moment de Babel, vont devenir des langues multiples. Et comme presque chacun des traducteurs dans votre film, Norita Vive, a l'air de dire que c'est un combat, le fait de traduire, qu'il y a une lutte entre deux forces quelquefois négatives, c'est important ce fait qu'au départ, il y avait une seule langue, et qu'à partir du moment où le langage se multiplie, ça crée quoi ?
Les Babel.
Voilà.
Mais j'ai envie de citer Dor Glissant, hein, là, parce que qui dit que chaque traduction aujourd'hui accompagne les réseaux de toutes les traductions possibles, de toute langue à toute langue. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est sur l'hébreu. Et je crois qu'aussi l'hébreu comme étant la langue, la première, c'est un mythe, on n'en sait rien, il y avait des langues avant, et même Babel, c'est un mythe qui vient d'ailleurs.
Ce n'est pas un mythe juif, araméen, hébreu.
On trouve ça déjà à Babel, Bab-El. Hein.
C'est qui veut dire porte du ciel.
La porte
de, oui, Dieu.
De Dieu.
La porte de Dieu.
Et ça vient d'avant. Hein.
C'est aussi une tradition mystique de la langue adamique, la langue unique, mais que les linguistes mettent
en complètement. Donc c'est plus une métaphore, oui, pour moi qu'aller vraiment dans cette réalité-là. Mais je veux croire que j'aurais pu faire un film sur toute langue à toute langue.
Что видит Бог в окне?
Que voit Dieu par la fenêtre?
Que voit Dieu par la fenêtre?
Mada yara Allahu khalf an-nafidhati?
Ma ro'e Elohim me'aver la chalon?
Vos zed got d'un fenstre?
Ma ro'e Elohim me'aver la chalon?
Pam achat chalamti chalom.
Une fois, j'ai fait un rêve.
Alors, je reviens à cette idée de que c'est pas, ça va pas de soi d'être traducteur, parce qu'on n'y pense pas quand on est lecteur. Hein. On pense à ce qu'on lit, on pense à l'auteur. Mais on voit à travers votre film, Norita Vive, que d'abord, chaque traducteur a un rapport spécifique avec ce qu'il traduit. Et très souvent, comme je le disais, il y a une notion de conflit, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec quelque chose pour accéder à cette traduction. J'ai remarqué, par exemple, il y a parmi ces traducteurs Allah et Hel, qui est lui né en Palestine et qui traduit en arabe donc un dramaturge israélien. Et il explique que ça ne va pas de soi du tout parce qu'il y a d'énormes différences entre sa langue maternelle, d'ailleurs il dit la langue du père, hein, il ne dit pas la langue maternelle, et l'hébreu. Il explique que pour pouvoir traduire exactement l'hébreu de cet auteur-là, il faut qu'il tue la langue du père. Il faut qu'il arrive à nier quelque chose de profond en soi. Vous pouvez m'expliquer ça, Rosie ? Est-ce que vous éprouvez la même chose ?
C'est une dialectique différente pour moi, mais vous avez tout à fait raison de le souligner. À la première du film, Hélène Cixous en parlait aussi, en parlant de la violence des traducteurs. Et effectivement, dans Insomnia, un livre que j'ai écrit sur la traduction, j'ai mis en exergue une phrase d'Antoine Berman qui dit « Il y a dans la traduction de la violence du métissage ». Et chez l'auteur que vous citez, le traducteur arabe, deux langues sont en conflit, luttent. Et Hélène Cixous mimait hier soir nos mains, les mains des dix traducteurs qui, à des moments différents, entament presque un pugilat des langues qui se heurtent, qui sont effectivement dans un conflit qu'il faut dépasser.
Oui, alors comme je vous le disais, Norita Vives, ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est qu'on s'attache aussi à ces traducteurs. Chacun dessine une silhouette, une histoire, des choix, des douleurs, des tourments. Apparemment, c'est pas si facile que ça d'être traducteur. Vous, Rosie Pinhas Del Puech, pourquoi êtes-vous devenue traductrice et comment ça a commencé l'aventure ? Vous êtes née en France, vous êtes née ailleurs
Je suis née à Istanbul et j'ai commencé à traduire l'hébreu tardivement après avoir enseigné parce que j'avais peur de l'oublier. Et cette notion de perte d'une langue est très importante. Et nous avons tous peur de perdre quelque chose et nous avons tous, que nous écrivions ou traduisions, parfois les deux, nous devons perdre quelque chose. Et il y a dans l'hébreu quelque chose d'essentiel de cette démarche. Justement, dans ce que dit le traducteur de l'arabe, dans ce que dit le traducteur catalan, qui s'est trouvé en ayant à renier quelque chose de son éducation catholique, dit-il en lisant Yehuda Amichai, Anna Birkenauer à Jérusalem, qui dit qu'elle est en Israël, c'est très bien parce qu'elle est en contact avec les auteurs israéliens, mais elle a peur d'oublier l'allemand. Il y a cette perte qui guette tout le temps, mais qui guette l'écrivain aussi. Mmh.
Surtout les gens qui vont s'installer en Israël. Je sais aussi, il y a une perte d'autre chose, de la langue des origines.
Hein. Dont parle très
ça,
bien...
Ça, c'est le film de... précédent. Voilà. Ça, c'est d'une langue à l'autre.
Par exemple, voilà. Aaron Appelfeld expliquait à quel point ça avait été épouvantablement douloureux pour lui d'apprendre l'hébreu, parce qu'il devait tirer un trait sur tout le reste. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu, comment dire, de volontariste, de très prenant, d'autoritaire dans l'acquisition de la langue hébraïque, non ?
Elle est effrayante.
Ah.
Elle est effrayante parce que c'est à l'origine une langue sacrée. Elle est traversée par le sacré, et le sacré est terrifiant. Il n'est pas gentil, il n'est pas religieux, il n'est pas accompagné de rituels et d'églises et de bougies ou de tout ce que vous voulez. Il est terrifiant comme un totem. Et c'est dans les mots. Et je l'appelle dans ma partie du film une langue nomade, une langue rocailleuse, désertique. Mais parce qu'elle surgit de cet endroit avec un livre qui la fonde ou qu'elle fonde.
Yad Elohim ba'olam, keyad imi bim'i ha'tarnegol ha'shachut. בערב שבת מה רואה אלוהים מעבר לחלון בעת ידיו נתונות בעולם מה רואה אימי
Alors, il y a une donnée qui m'échappe, mais je ne sais pas pourquoi, c'est qu'on est sans arrêt passionné par les propos, mais il y a quelque chose de très émouvant qui se dégage de ce film et je ne saurais pas dire quoi. Est-ce que vous le sauriez, Rosie ?
Je crois que ça tient beaucoup à la manière dont la cinéaste nous a filmé. Je pourrais témoigner de moi-même. Elle vient dans l'endroit le plus intime du travail, là où le travail se fait. Écoutez, et elle nous filme dans ce petit recoin. Nous sommes chacun dans un coin, dans un angle, entouré de nos livres et devant notre table de travail. Et à notre table de travail, il y a quelque chose, pas quelque chose, il y a dans son intégrité, l'intensité du livre, de l'écrivain. Et un livre, c'est traversé de volonté et de désir. Et c'est ça que porte le traducteur et que recrée le traducteur. Donc, je crois que Nourit s'introduit avec une grande discrétion et directement, avec sa caméra, dans cet endroit, dans ce creuset même où les choses se font.
À votre avis, Nourrit, ce niveau d'émotion,
je crois que ça vient vraiment de la passion que nous font sentir les traducteurs, de la passion qu'ils ont de rentrer quand même dans le travail, dans la profondeur de travail d'un autre. On peut pas, ça ment pas. Quand on traduit quelqu'un, on y va vraiment au fond. Et je crois qu'ils sont, pour le faire, il faut être vraiment passionné. Et je crois que c'est cette passion-là qui fait que ça nous émeut.
Moi, je vais ajouter une troisième raison aux deux vôtres. C'est que traduire un mot, un livre, ça paraît tout simple. Et en fin de compte, à travers votre film « Nourrit à vivre », on s'aperçoit de toute l'aventure extraordinaire, de la richesse et de l'essentiel que comporte quoi, finalement, la langue, le langage. Merci beaucoup à toutes les deux. Traduire et maintenant, dans une salle,
en exclusivité aux Trois Les Luxembourg.
Pour un temps indéterminé, très long j'espère.
Et avec beaucoup de débats.
Et il y aura très souvent des débats avec de grands écrivains qui viendront expliquer leur rapport à ce film. Et donc si on veut avoir le calendrier des débats autour de traduire, eh bien, on se reportera au site de Cosmopolitan. Merci Nourrit à vivre, merci Rosie.
Merci à vous.
Pinhas del Puech.
Merci.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les mots. Les mots pour rire, les mots d'amour, les mots dits pour de mots. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux. La faim de mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissants, les mots. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin des mots.
Marie-Madeleine, si vous êtes d'accord, mais uniquement si vous êtes d'accord, on va laisser toute la place de l'agenda à Christine Haas. Bonjour Christine.
Bonjour,
Christine, qui a fait un périple cinématographique extraordinaire en Scandinavie.
Oui, c'est vrai que j'ai fait un périple. Ça vous a pas échappé qu'effectivement, en ce moment, on s'intéresse beaucoup au cinéma scandinave. Il y a 3-4 films en salle déjà. Il va y en avoir un nouveau qui est Revenge de Susan Bier qui a obtenu le Golden Globe. Et puis, depuis
Insomnia, qui a donné l'occasion à un remake avec Christopher Nolan, depuis le phénomène Millennium, cette trilogie qui est absolument cartonnée, qui est actuellement en train aussi d'avoir un remake avec David Fincher, le polar scandinave a véritablement le vent en poupe et c'est pas prêt de s'arrêter parce que ce qui nous plaît en fait dans le polar nordique, c'est le mélange exotique avec les codes du polar classique, l'arrière-plan social qui est une sorte de critique de l'état-providence, du modèle scandinave, le décor qui est souvent époustouflant et même le rythme qui n'a absolument rien à voir avec les thrillers américains où on se tire dans tous les sens parce que le nordique fonctionne au ralenti. Hein. On réfléchit au coin du feu, il y a une profondeur.
Ça, c'est une phrase profonde. Hein. Le nordique fonctionne au ralenti.
Voilà, fonctionne au ralenti. Non, en tout cas, dans les films, il y a une sorte de profondeur, une noirceur, qui est en fait une tradition qui vient de Strindberg, de Bergman, et on enquête d'une ferme à l'autre, et puis le soir on déprime devant la télé, on boit comme dans les Wallander, hein. La série qui est adaptée de Henning Mankell et qu'on voit actuellement à la télévision, soit dans une version suédoise, soit dans une version anglaise. Et donc je suis allée voir à Stockholm ce qui se passait, où on a tourné une trilogie qui s'appelle la trilogie Stockholm Noir, dont les deux premiers volets, L'argent facile et La mafia blanche, sont sortis en France. Le troisième volet est prévu pour 2012.
Mais en série à la télé ou...
Non. Alors, on a d'abord le livre qui est un livre de l'auteur Jens Lapidus, qui est un jeune avocat pénaliste qui s'inspire de la vie des criminels qu'il fréquente dans les prétoires, et puis qui nous entraîne dans les bas-fonds de la ville où règne une mafia cosmopolite. On est dans un monde complètement sulfureux, glaçant, bourré d'anecdotes sur le milieu, des personnages très réalistes, et un vrai suspense. En fait, c'est un univers où on a les clichés urbains, les banlieues hostiles, mais aussi un cocktail explosif de drogue, de passion et de sexe dans une capitale qu'on imaginait beaucoup plus aseptisée. Donc il y a ces deux romans, et puis fin mars, vous allez pouvoir découvrir l'adaptation cinématographique du premier volet qui s'appelle Easy Money. Ensuite, je suis partie un peu plus au nord, vers le polar nordique, parce que le polar nordique, c'est aussi la forêt, les fjords, une sorte de nature sauvage, un climat rude avec les longues nuits, le soleil de minuit, une lumière qui est particulière, qui nimbe les intrigues de mystère et des gens
de
terroir.
Quand il y a de la lumière.
Quand il y a de la lumière.
Parce qu'un des grands motifs de dépression, c'est qu'à 4 heures de l'après-midi en hiver, voilà. Non, même à midi, voilà. C'est fini.
Les nuits très longues, voilà. C'est ça. Et les gens du terroir vont évoluer dans une ambiance qui est assez provinciale, comme dans la série norvégienne des Varg Veum, qui vient du nom d'un détective privé, qui lui est dans la tradition classique des Raymond Chandler. Il est alcoolique, solitaire, un peu maso, hein, c'est le loup solitaire. Et lui, il enquête dans sa ville natale de Bergen, où j'étais, absolument magnifique, perdu dans les fjords, et où la société connaît quelques mutations, hein, drogue, prostitution, corruption, depuis que le pays, qui était très pauvre avant les années 60, est devenu très riche à partir des années 70, avec la découverte du pétrole. Et l'auteur, Gunnar Stallesen, qui a un ton très désabusé, très comique et très tendre, est assez connu en France. Il y a eu un certain nombre de ses livres sont traduits en folio policier. Et la série qui a été adaptée de ses livres a été achetée par Canal+. On devrait la voir dans le courant de l'année. Enfin, c'est vrai que le polar nordique s'enrichit aussi de la mythologie, des vikings, des trolls, d'un univers fantastique et de traditions bizarres qui permettent de ritualiser les meurtres. Et les Scandinaves sont très forts pour décrire le côté obscur de la société, les tabous, les secrets, comme le Danois Erling Jepsen, dont nous ne connaissons que le premier de ces trois romans, qui s'appelle « L'art de pleurer en cœur ». Les autres vont sortir sous peu. Et notamment « Terribly Happy », qui nous embarque là, dans la province du Jutland, pour une intrigue qui est glauque, étouffée sous le poids des non-dits, du puritanisme, où la violence se joue à huis clos, dans l'intimité d'une petite ville frontalière, où la population va faire régner l'ordre d'une manière assez macabre. Alors on est là, dans une ambiance de western, dans un climat qui est à la fois Délivrance, de John Borman, Les Frères Cohen et Twin Peaks, hein, pour vous dire, de David Lynch. Alors cet auteur, on pourra voir son film à l'occasion du festival du cinéma scandinave, qui s'appelle Ciné Nordica, qui se déroulera du 4 au 8 mars prochain au cinéma du Panthéon. Et il faut y aller parce que tous les films dont je vous parle, vous pourrez les y voir, ainsi que bien d'autres.
Merci Christine. Alors votre enthousiasme n'est pas que cinéphilique, il est aussi originel, puisque c'est votre continent, votre pays dont vous parlez. Fin de cette cosmopolitaine. Merci à nos techniciens Guillaume Roux et Fabien Laléouze, toute la merveilleuse équipe de Cosmopolitaine, Marie-Madeleine Rigopoulos, Christine Haas, Marie-Louise Beau, Christiane Alain, Djoubaka pour les chansons, Anne Sécheret pour la réalisation et moi-même. On se retrouve dimanche prochain. Je recevrai l'écrivain russe Dimitri Bortnikov pour son roman Le syndrome de Fritz et le chilien Pablo Larrain pour son film Santiago 73 post-mortem. Cosmopolitaine, vous le savez, sur le site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission durant toute la semaine ou la podcaster, vous pouvez nous écrire, ça nous fait toujours plaisir, à cosmopolitaine@radiofrance.com. Dans un instant, au fil de l'histoire de Patrick Liégibel,